Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Nous allons relire ce chapitre en entier. Apocalypse chapitre 4, à partir de verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous avons déjà dit la semaine dernière, en considérant ce chapitre 4, que c'est sans doute l'un des chapitres, ce qu'on appellerait les grands chapitres de la Bible, parce que ce chapitre nous présente ce qui est sans doute la vision qui contient le plus d'informations au sujet de la gloire de Dieu. Premier mot sur la feuille. Dieu qui règne depuis son trône dans le ciel. Nous avons dit que d'autres chapitres sont considérés comme étant grands. Le psaume 23, par exemple, Ésaïe 53. Romains 3, Romains 8. Et ils sont grands parce qu'ils nous disent ce que Dieu a fait pour nous. Mais ici, en Apocalypse 4, nous avons une vision de Dieu lui-même dans la gloire de sa personne, assis sur le trône, souverain sur toutes choses. Voir la gloire de Dieu, c'est ce qu'un croyant désire quand il marche, quand il avance dans la vie chrétienne, connaître Dieu davantage. C'était la requête, par exemple, de Moïse. Rappelez-vous, quand Moïse, qui pourtant a eu des expériences remarquables avec le Seigneur, et quand il est sur le mont Sinaï, il s'écrit en Exode 33, versets 12 à 23. Et nous lisons ce passage où il nous dit, où Moïse dit à l'Éternel: Montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit qu'il ne pourra pas voir sa face, mais qu'il verra par derrière. C'est une façon de dire à Moïse: Moïse, tu es une créature. Tu ne peux pas voir la gloire du Créateur, mais je vais te donner des symboles de cette gloire. Et tu verras cette gloire par derrière. Et quelque part, c'est un peu ce que nous avons ici en Apocalypse 4. Nous avons des symboles Deuxième mot sur la feuille, les symboles de la gloire rayonnante de Dieu. Et bien sûr, la question, disons, la chose importante de se rappeler est celle-ci, nous l'avons déjà souligné quand nous avons débuté l'étude de ce livre, que ce livre parle en symbole. Par exemple, plus tard, Satan sera décrit comme étant un dragon et l'Antichrist qui amène la persécution sera décrit comme une bête. Ces descriptions ne sont pas là pour nous dire à quoi il ressemble, mais ce sont des symboles et ils nous montrent ce que Satan et son serviteur sont en réalité. Ils sont comme le dragon, comme une bête terrible. Ils traduisent ces symboles, la réalité. Et de la même manière, nous ne pouvons pas voir comment Dieu est. Nous n'aurons jamais une vision de Dieu sans médiateur, sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces symboles nous expriment ce qu'il est. Psaume 104, par exemple, verset 2 nous dit « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Et ça souligne une différence entre Dieu et nous. Nous mettons un manteau pour, d'une part, nous cacher ou nous protéger. Ici, l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il le fait pour se révéler. Pour se révéler, il s'enveloppe de tout ce que Jean a vu, tout ce que nous avons vu la dernière fois dans ce chapitre 4. Il s'enveloppe de tous ces symboles pour d'être visible, pour se révéler. Lui qui est invisible par nature, il s'enveloppe de toute cette gloire pour se faire connaître. Nous avons vu certaines choses la dernière fois. Nous avons vu qu'il est sur le trône, que cela parle de sa souveraineté. Nous avons vu sa gloire qui est exprimée par cette pierre de jaspe qui plutôt traduirait le diamant. Nous avons vu la fidélité de Dieu qui est exprimée, qui est illustrée par l'arc-en-ciel qui est tout autour de ce trône, par cette pierre d'émeraude qui parle de cette nouvelle vie, l'émeraude qui traduit et l'arc-en-ciel qui traduisent ce que par exemple Noé et sa famille ont vu après le déluge, une nouvelle terre, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et là encore, cela rappelle que pour ceux qui sont en Christ, il y a ce nouveau départ avec lui, une nouvelle, et ce qui est promis, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous avons vu la puissance de Dieu, la mer de verre, cette mer qui est le symbole de toute la rébellion de l'humanité et qui est maintenant figée, elle ne bouge plus parce que Dieu a parlé. Nous avons vu sa grâce par l'Esprit qu'il donne, les sept esprits qui sont devant le trône, qui parlent de l'Esprit Saint dans toute sa perfection, dans toute son œuvre, cet Esprit qui nous est donné, qui vit en nous. Et nous avons abordé quelques mots sur la sainteté de Dieu. Et nous allons revenir là-dessus. Et nous avons aussi vu que les quatre êtres vivants et les 24 vieillards qui représentent à la fois les quatre êtres vivants qui sont les chérubins, qui représentent toute la création de Dieu, avec ses quatre faces, et les 24 vieillards qui représentent toute l'Église, les 12 de l'Ancien Testament et les 12 du Nouveau, ont pour activité la chose la plus importante qui soit, l'adoration de Dieu. Troisième mot sur la feuille. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui remplit le ciel quand Jean entre par cette porte. Et nous avons dit que le seul moyen, le seul accès pour entrer dans le ciel est la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean est entré et il a vu. Et il voit que ce que ces quatre êtres vivants font et ce que ces 24 vieillards font avec les myriades d'anges que nous verrons dans le chapitre 5. Ils adorent Dieu. L'activité la plus importante, l'adoration de Dieu. Mais quand on parle d'adoration de Dieu, il nous faut réaliser qu'on a besoin de modèles. Parce que dans le monde évangélique aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la manière d'adorer Dieu n'est pas importante. Ce qui compte, c'est être sincère. Mais Apocalypse 4 nous donne un modèle pour notre adoration. Nous avons donc ici l'adoration qui se passe dans le ciel, et cela nous donne des lignes directrices pour notre adoration sur terre. Et donc, la première question, tout d'abord, c'est qu'est-ce que l'adoration de Dieu ? Qu'est-ce que l'adoration de Dieu ? L'adoration, c'est la louange de Dieu en réponse à sa révélation. Dieu se révèle, Dieu se fait connaître, et en réponse à cette révélation, nous le louons, nous le remercions, nous lui rendons gloire. On voit cela dans les quatre êtres vivants, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, et ici, ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Comme j'ai dit la semaine dernière, nous avons vu que ces quatre êtres vivants, avec leur face de lion, de veau, d'homme et d'aigle, représentent donc les familles de toute la création. Ils représentent tous les êtres vivants qui ont été créés. Et ils faisaient ce pourquoi ils ont été créés. Et ce pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu pour sa sainteté, pour son œuvre de création. Et tous les êtres vivants ici sont représentés en faisant cela. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, c'est pour ça que nous avons été créés. Et l'Église elle-même, les 24 vieillards qui représentent l'Église, l'humanité rachetée, sont là aussi pour louer Dieu. Mais une remarque, avant d'aller plus loin. Quand on parle d'adorer, il y a une chose, une point technique, si on peut dire, à souligner, c'est que le verbe adorer est un verbe transitif. Quatrième mot sur la feuille. Vous vous rappelez peut-être, ou peut-être pas, ce que ça veut dire. Mais un verbe intransitif, par exemple, est un verbe qui n'exige pas un objet direct. La phrase, par exemple, le verbe sourire, « je souris » est une phrase qui est complète. Ça ne demande pas quelque chose après le verbe. Par contre, la phrase « j'adore » est une phrase qui est incomplète. Parce que le verbe « adorer » est un verbe qui est transitif. Il exige que quelque chose décrive, un objet qui décrit l'adoration. Qu'est-ce qu'on adore ? Quel est l'objet de notre adoration ? On adore quelque chose ou quelqu'un. Et quand on entend des personnes dire qu'ils passent un moment dans l'adoration, sans préciser quoi, on peut se poser des questions. Le verbe adorer est un verbe transitif direct. Il exige un objet direct. On adore toujours quelqu'un ou quelque chose. La question est, qu'est-ce qu'on adore ? Ou qui est l'objet de notre adoration. Et il y a un danger, même dans notre culte. Beaucoup de choses peuvent devenir l'objet qui va être au centre de notre culte. Ça peut être, par exemple, les attentes de l'assistance. Et tout, à ce moment-là, tourne autour et focalisé là-dessus. Par exemple, rappelez-vous, le peuple d'Israël, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, le peuple d'Israël est venu voir Aaron et dit « Fais-nous un Dieu ». Et Aaron, au lieu de dire « Mais Moïse est monté, il est auprès de l'Éternel, il parle avec l'Éternel, il va redescendre », Aaron prend tout l'or, et qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? Il dit « Ben voilà, j'ai jeté ça au feu, et puis il en est sorti un veau d'or ». Mais voilà, le danger, il est là. Il est là. Beaucoup de choses peuvent venir au centre, l'attente de l'assistance, ou les désirs de l'assistance, par exemple. Mais beaucoup d'autres choses, on peut imaginer, on peut penser que beaucoup d'autres choses peuvent venir et prendre la place. Non, ce qui doit être au centre de notre culte, c'est l'adoration de Dieu. Dieu qui est saint, Dieu qui est assis sur le trône. Bien sûr, le reste, l'édification, l'enseignement, l'évangélisation, le fait de répandre la bonne nouvelle, découle de notre adoration de Dieu. Mais nous sommes appelés à lui rendre un culte, d'abord à lui. C'est lui qui est au centre, comme il est au centre ici. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards sont tous autour du trône, parce que c'est Dieu lui-même qui est au centre. C'est lui que nous devons adorer, et lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, a dit, ou dans les cantiques que nous allons voir, qui s'élèvent à Christ dans le premier chapitre, et puis au chapitre 5, nous allons le voir, que la louange est adressée à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, et c'est donc lui que nous devons louer. C'est lui qui doit être au centre. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards sont autour du trône et ils adorent Dieu. Tout d'abord, on adore Dieu pour sa personne. Nous l'avons abordé la dernière fois, mais au verset 8, les quatre êtres vivants soulignent la sainteté de Dieu. Cinquième mot sur la feuille. Verset 8, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et cette adoration fait écho à ce passage que nous avons lu tout à l'heure, en Ésaïe chapitre 6. Nous avons aussi dit la semaine dernière que cela nous rappelait la vision en Ézéchiel chapitre 1. Et au chapitre 10. Mais donc ici, comme au passage que nous avons lu en Ésaïe 6, ces séraphins, ces anges resplendissants qui ne cessaient de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Faut se rappeler que dans la langue originelle, en hébreu, dans l'Ancien Testament et en grec, il n'y avait pas de point d'exclamation comme nous avons en français. Et donc, pour souligner un point, pour montrer l'importance d'un point, la Bible va utiliser le principe de la répétition. Par exemple, quand Jésus va dire et va répéter l'expression en vérité, en vérité, je vous le dis. Et il veut que ses auditeurs prêtent attention à ce qu'il est sur le point de dire. En vérité, ce que je vous dis est très important. C'est l'équivalent d'un point d'exclamation. Et ici, nous avons ce que je dirais, ce que j'appellerais une triplette. Saint, 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 trois fois. Et c'est la seule triplette, je n'ai pas trouvé d'autres mots, qui traduit un autre point d'exclamation. Et c'est la seule triplette qui parle, que nous trouvons dans la Bible, et qui parle de l'attribut principal de Dieu, sa sainteté. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Qu'est-ce que la sainteté? Être saint, c'est être mis à part, c'est être séparé de tout ce qu'il y a. Dieu est au-dessus de sa création. Et tout ce qu'on peut dire au sujet de Dieu est saint. C'est l'adjectif aussi qui va qualifier tous les autres attributs de Dieu. Il est saint en toutes choses. Et par exemple, on se rappelle que en Jean 17 et au verset 11, quand le Seigneur s'adresse à son Père, il s'adresse à lui en des termes, en l'appelant Père Saint. Père Saint. Et quand nous nous adressons à Dieu selon l'exemple que le Seigneur nous a laissé, et nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps avec les enfants, dans la prière modèle, quelle est la première demande, la première requête? C'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom reçoive cette sainteté que tu mérites, que ton nom soit glorifié, sanctifié. C'est le modèle que le Seigneur Jésus nous donne. Et nous avons des occasions, par exemple, je pense encore une fois à Moïse, qui, quand il se présente, quand il est devant le Seigneur, l'Éternel, qui se révèle dans le buisson ardent, il enlève ses sandales de ses pieds parce qu'il est dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Et donc, nous devons nous aussi réaliser que nous nous approchons d'un Dieu qui est saint, qui est saint, qui est au-dessus de nous. Et nous devons l'approcher avec révérence, avec crainte. La deuxième chose que nous voyons ici dans la personne de notre Dieu, c'est que les quatre êtres vivants, encore une fois, au verset 8, soulignent « adore Dieu pour sa puissance ». Il dit ici « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Et le terme grec est le terme « Pantocrator ». Et c'est un terme que César utilisait pour se décrire lui-même. Il se faisait appeler le Tout-Puissant. Et Jean, encore une fois, et le Seigneur, par la plume de l'apôtre Jean, rappelle à l'Église et rappelle à nous que ce n'est pas César et ce n'est pas un homme politique qui est Tout-Puissant. Le seul qui est véritablement Tout-Puissant, à qui appartient toute la puissance dans ce monde et dans l'univers, c'est Dieu. C'est notre Dieu. C'est l'Éternel qui est au-dessus de tout. Un commentateur, un puritain, écrit ceci. Le conseil éternel de Dieu serait vain s'il n'avait pas la puissance de le mettre à exécution. Sa miséricorde ne serait qu'une pitié très faible s'il n'avait pas la puissance de soulager, de libérer. Sa justice ne serait qu'un épouvantail sans la puissance de juger et de punir. Et ses promesses ne seraient qu'un son vide s'il n'avait pas la puissance de les accomplir. Dieu est tout-puissant. Jean écrit à ces églises, nous l'avons vu, qui sont sous le talon de César, si on peut dire, qu'ils sont sous l'autorité de celui qui se faisait appeler Pantocrator. Mais il rappelle que ce n'est pas César qui est tout-puissant. C'est Dieu, c'est l'Éternel, qui est celui qu'ils adorent, celui qu'ils servent, celui qu'ils connaissent par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est tout-puissant. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, on peut être fatigué par tout ce que l'on voit dans ce monde. On peut être fatigué, lassé par tout ce qui se passe. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi telle et telle chose se passe dans ce monde, pourquoi nos hommes politiques prennent telle décision qui est contraire à la parole de Dieu. Parfois, on peut même entendre la menace de groupes extrémistes ou de nations qui sont sur le point de créer un conflit qui risque d'être important. Mais la parole nous rappelle qu'au-dessus de tous ces hommes et leur puissance humaine, il y a quelqu'un qui est tout-puissant et qui est digne de notre louange et de notre adoration. c'est notre Dieu. Celui qui, par la foi en Jésus-Christ, s'est aussi fait notre Père. Il est tout-puissant. Il est digne de notre louange. Et la troisième chose que nous voyons, c'est que les quatre êtres vivants louent Dieu pour son éternité. Septième mot sur la feuille. Il parle de celui qui était, qui est et qui vient. Et l'éternité souligne ici, ce terme souligne que non seulement Dieu est en dehors du temps, il voit le temps, c'est lui qui a créé le temps. Il était, il est et il vient. Mais il est aussi souverain, encore une fois, sur toute chose. Il est absolument souverain sur tout ce qui se passe, sur toute chose. Les empires viennent et disparaissent. Dieu demeure. Et il ne change pas. Et au milieu de toute cette rébellion de l'être humain, de l'humanité, Dieu demeure le même. Il est saint, il est tout-puissant, il est éternel et il est digne de notre louange. On adore Dieu pour ce qu'il est, mais on adore Dieu aussi pour ce qu'il fait. Nous allons voir au chapitre 5 l'adoration de Dieu pour son œuvre de rédemption en Jésus-Christ. Mais ici, au chapitre 4, nous avons la louange qui est rendue à Dieu pour son œuvre en tant que créateur, huitième mot sur la feuille, pour son œuvre de création. Il a créé toutes choses, il soutient toutes choses par sa volonté toute puissante. Il est digne d'être loué. Et nous avons regardé, nous sommes invités à regarder à la création et pour voir les signes de la gloire de Dieu. Psaume 8, verset 2, par exemple, nous fait élever les yeux vers le ciel. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et c'est vrai que quand on prend le temps de regarder le ciel, surtout la nuit, on voit tout un tableau qui est à la louange de Dieu. On voit toutes ces étoiles, toutes ces planètes. Certains petits points lumineux, en réalité, sont même des galaxies. Mais elles sont tellement éloignées. Et si avec un télescope, on peut voir une partie du ciel, une petite section du ciel, on découvre encore plus d'étoiles. Dieu les a créées et il les connaît par leur nom. En lisant, en préparant, j'ai appris que notre propre galaxie, la Voie lactée, compte entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Rien que notre galaxie. Et on sait qu'il y en a d'autres. Et le diamètre de cette Voie lactée, donc la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, est estimé, le diamètre, entre 100 et 120 000 années-lumière. Alors, pour vous donner une idée, la distance entre la Terre et la Lune, elle est juste au-dessus d'une seconde-lumière. Donc, la distance entre la Terre et la Lune, c'est une seconde-lumière, et la largeur, le diamètre de la Voie lactée, est estimé entre 100 et 120 000 années-lumière. Et ce n'est que notre galaxie. Et il y en a d'autres. Et la distance entre les galaxies est estimée à 100 000 fois, donc cette distance entre la Terre et la Lune. Mais on peut regarder aussi vers le bas, vers ce qui est infiniment petit. On peut voir la complexité des cellules humaines, par exemple. Toute une usine dans chacune des cellules qui est là pour fabriquer de l'énergie, pour synthétiser tout ce que le corps humain a besoin. On peut regarder l'équilibre des molécules, l'équilibre des atomes. Tout nous parle. Tout devrait nous encourager, nous révéler les signes de la gloire de Dieu dans la création. Quand nous nous adressons à lui dans la prière, quand nous nous adressons à Dieu dans la prière, ce Dieu qui nous a donné sa parole, cette parole que nous avons ce matin, ce Dieu qui nous a donné son propre Fils comme notre Sauveur, c'est aussi celui qui a créé toutes choses par sa parole toute puissante et qui maintient toutes choses par sa volonté. Et un commentateur dit, « Les saints dans le ciel louent Dieu pour les merveilles de sa création. Nous qui faisons partie de cette création, ne devrions-nous pas en faire autant dans notre culte d'adoration ?» Quand on pense donc à l'adoration de Dieu, on voit que Dieu est glorifié pour ce qu'il est dans sa personne, mais aussi pour ce qu'il fait. Et nous reviendrons sur ce point la semaine prochaine en parlant de l'œuvre de rédemption en Christ au chapitre 5. Mais cela souligne donc qu'il est le seul qui doit être adoré. Les destinataires de ce livre, de l'Apocalypse auquel Jean s'adresse, pour beaucoup, allaient connaître la mort parce qu'ils refusaient de dire que César est Seigneur. Ils refusaient d'attribuer la divinité à l'empereur. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne devons pas plier le genou devant les idoles de notre temps. Notre génération a besoin de croyants comme la génération du premier siècle, de croyants qui disent non à l'idolâtrie. Et Apocalypse 4 nous dit que le meilleur moyen d'éviter l'idolâtrie est d'adorer le seul vrai Dieu qui est saint, qui est tout-puissant, qui est éternel et qui est le créateur de toutes choses. Car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que ton nom soit sanctifié. Voilà ce que nous devons dire. Mais le deuxième point que je veux voir ce matin est celui-ci. Que font ceux qui adorent Dieu? Que font les adorateurs de Dieu réellement? Ou que font les vrais adorateurs de Dieu? Trois choses. La première, nous voyons dans l'exemple de ces quatre êtres vivants et des 24 vieillards sur leur trône. Il montre que les adorateurs, les vrais adorateurs de Dieu, s'humilient devant lui. Ils s'humilient devant lui. Et cela est suggéré dans cette vision par les ailes de ces êtres vivants. En revenant à Ésaïe 6, par exemple, on a lu que ces êtres remarquables, donc avaient trois paires d'ailes, une paire pour voler, une paire pour servir Dieu, pour courir à son service, et une autre pour une paire pour voler, pour servir, une autre pour se couvrir le visage, parce que même eux ne pouvaient regarder la gloire de Dieu tellement elle est grande. Et la troisième paire, avec la troisième paire, ils se couvraient les pieds. Ce qui nous rappelle ce que Moïse a fait devant le buisson ardent. Il s'humilie devant Dieu en tant que créature, devant leur créateur. Ils adorent Dieu en toute humilité. Et nous avons l'humilité des 24 vieillards. Au verset 10 d'Apocalypse 4, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils adorent et ils jettent leur couronne. Ils se prosternent devant lui. Quand Dieu est adoré. Quand Dieu est exalté, l'orgueil humain est abaissé. Mais le contraire est aussi vrai. Si Dieu est abaissé, cela veut dire que c'est l'orgueil humain qui est exalté. Quand Dieu est exalté, l'orgueil est abaissé. Notre adoration de Dieu consiste à l'exalter, mais aussi à nous humilier devant lui. La véritable adoration de Dieu est dans l'humilité, souvent loin de ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. La deuxième chose que les adorateurs font, c'est qu'ils adorent Dieu dans la joie. C'est le 10e mot sur la feuille. Et on le voit dans les chants, dans les cantiques qu'ils chantent, la musique exprime les sentiments, et en particulier la joie, l'adoration joyeuse. Psaume 97, par exemple, verset 12, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Et ici, en Apocalypse 4, nous avons un des cantiques de ce livre. Nous avons déjà dit que ce livre de l'Apocalypse est rempli de cantiques, parce qu'il décrit ce qui se passe dans le ciel, cette louange de tout le peuple racheté avec les anges. Et même sur terre, chanter ensemble dans l'adoration devrait être une des plus grandes joies pour nous. Même si on estime qu'on ne sait pas chanter ou qu'on ne chante pas juste, on va passer beaucoup de temps dans l'éternité à chanter Dieu. Et Dieu nous donne la musique pour élever nos cœurs, pour nous réjouir nos cœurs, alors que nous chantons à la louange de notre Dieu. Et par nos chants, notre cœur se joint à notre esprit pour dire « Oui, voilà ce que nous croyons. Voilà ce que nous croyons réellement. » Et ce que nous voulons faire monter vers Dieu dans notre reconnaissance et notre adoration. Nous nous réjouissons de connaître Dieu et nous nous réjouissons de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. L'adoration se fait dans la joie. Et l'adoration, troisièmement, se fait aussi dans la confession. Ils confessent, ceux qui adorent Dieu, le confessent comme Seigneur et Sauveur. 11e mot sur la feuille. Ils le confessent comme Seigneur et Sauveur. On raconte cette histoire qu'en 1743, quand Handel a joué pour la première fois son œuvre intitulée « Le Messie », il l'a joué à Londres. Le roi George II s'est tenu debout lorsqu'il y a eu la fameuse partie, le Alléluia. Et toutes les autres personnes se sont mises debout en même temps, mais apparemment c'est encore une tradition dans certains endroits aujourd'hui. Mais le roi s'est mis debout et il a incliné sa tête. Et il a fait cette confession. Lui, le roi d'Angleterre, il a reconnu qu'il y avait un roi au-dessus de lui. Un roi qui règne pour toujours. Et ici, au verset 10 et 11, nous avons les 24 vieillards qui font cette même confession. Ils jettent leur couronne devant le trône. Ils disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Qu'est-ce que cela veut dire quand les 24 vieillards jettent leur couronne dorée devant le trône? En fait, ils disent tout simplement que la véritable souveraineté appartient à celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui règne réellement. Toute la gloire que nous pourrions avoir en tant que croyants, toute victoire que nous pourrions remporter, nous les devons à Dieu. Nous les devons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les devons à l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est la gloire de Dieu. C'est à lui que revient toute la gloire. Et les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône et reconnaissent qu'à lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance. Sur terre, nous sommes déjà appelés à vivre d'une certaine manière pour donner gloire à Dieu et pour amener d'autres à glorifier Dieu. Rappelez-vous par exemple ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 5, verset 16. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc déjà sur terre, nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Les œuvres que nous avons, que nous faisons, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Éphésiens 2, ces œuvres ne sont pas pour notre gloire, mais elles sont pour la gloire de Dieu, pour lui donner gloire. Et nous sommes déjà appelés à le faire sur terre. Un jour viendra où toute l'humanité se tiendra devant Dieu. Les non-croyants entendront leur sentence et la punition éternelle. Mais ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent, seront sauvés. Et ce sera un jour de joie quand on entendra la voix de notre Dieu nous admettre dans sa présence glorieuse. Quelle couronne allons-nous jeter devant le trône. Nous sommes appelés et nous vivons sur terre et nous faisons beaucoup de choses légitimes sur terre. Mais nous devons nous rappeler que seule la foi en Christ et la fidélité à Christ nous fera remporter la couronne de la vie. Nous l'avons vu dans le chapitre précédent et au chapitre 2, dans les lettres aux églises, seuls ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui lui appartiennent réellement, seront gardés et persévéreront pour remporter cette couronne que nous pourrons alors, quand nous serons dans la présence de Dieu, jeter à ses pieds, en reconnaissant qu'il est notre Dieu, digne de notre louange. Mais la question que nous voulons nous poser encore déjà ce matin, ici-bas sur terre, c'est est-ce que nous sommes engagés dans cette activité qui est la plus importante, celle qui occupe une plus grande place au ciel, et celle qui devrait aussi occuper une grande place dans notre vie? Est-ce que nous sommes occupés dans cette activité qui est l'adoration de Dieu? L'adorer avec humilité, avec joie, avec reconnaissance, le louant pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Mais comment est-ce qu'on peut être un adorateur, un véritable adorateur de Dieu? C'est de la même manière, comme nous avons vu, quand Jean est entré dans le ciel, il est entré par la porte, par cette porte qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des véritables adorateurs de Dieu par la foi. 12e mot sur la feuille. La foi en Jésus-Christ. Nous avons déjà dit, et nous le reverrons au chapitre 5, que le Seigneur Jésus-Christ a fait de ceux qui croient en lui des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Si nous sommes unis à Christ par la foi, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes appelés à lui rendre gloire. Notre prière, c'est que Dieu nous accorde sa grâce pour vivre cette vocation, pour que nous puissions dire avec tous ceux qui sont déjà autour du trône, ceux qui sont déjà dans la présence glorieuse de Dieu, à Dieu seul, 13e mot sur la feuille. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Que Dieu nous aide à saisir cela et qu'il nous aide à le vivre pour sa gloire. Amen.